Alors bonsoir à toutes et à tous. Cité biblique rentre dans sa deuxième grande partie, puisque nous voici pour la cinquième fois autour de ce thème. Et c'est tout naturellement à Jérusalem que nous entrons, dans une Jérusalem un peu étonnante, un peu effrayante, qui a autant d'idoles que de rues. Une Jérusalem bien décriée par les prophètes, puisqu'avec Jérémie, nous allons entendre des choses bien difficiles et bien dures à entendre, un peu de cette voix qui, au lieu de se taire, exprime ce que, au fond, peut-être toute une nation ressent dans un contexte de crise et de décadence. Alors, il n'en a pas toujours été ainsi. Nous avons commencé à Babel, avec le projet de se construire une ville, un beau projet certes, mais aussi la source de bien des péchés. Nous l'avons vu au mois d'octobre. Ensuite, c'est à Jéricho que nous avons su que les remparts de la ville pouvaient s'écrouler, ville obstacle ou ville refuge, au mois de novembre. À Nazareth, nous avons cru nous arrêter sereinement, mais nul n'est prophète en sa cité. Et nous l'avons vu avec un Jésus sans feu ni lieu au mois de décembre. En janvier, c'est à Capharnaüm que nous avons fait halte, au bord du lac. Mais là aussi, Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes. Et nous nous sommes demandé si, au fond, à chaque fois qu'il se trouvait dans les villes, Jésus prêchait dans le désert. Ça, c'était au mois de janvier. Alors aujourd'hui, ce sera donc Jérusalem, la paix de Dieu ou la folie des hommes. Heureusement, la prochaine fois, en mars, ce sera cette ville sainte qui descendait du ciel que nous décrit l'Apocalypse. Et puis nous irons faire un tour au-delà du côté de Ninive, qui, au bout de 40 jours, comme notre temps de carême, sera retournée, ville sauvée et non point détruite. Et puis enfin, nous terminerons au mois de mai à Athènes, sous le soleil des philosophes, et avec un Paul qui nous avait réunis il y a déjà plus de 3 ans, avec un Paul qui a parcouru la ville d'Athènes et qui a découvert ce Dieu inconnu qui pouvait réconcilier la foi et l'intelligence, la recherche humaine, mais avec des résultats pas toujours très convaincants. Alors voilà, ce soir, merci Marc de nous réunir à l'oratoire du Louvre, devant une assemblée plus diverse que jamais. Nous sommes très heureux de voir la mixité protestante-catholique, toujours très vive, toujours très belle, mixité hommes-femmes, mixité des âges, mixité des éléments de recherche. Donc, continuons ensemble, sereinement, autour de nos cités, à dialoguer, à partager, à échanger, et pourquoi pas à quelques traits d'humour auxquels maintenant nous nous sommes habitués. Alors, nous commençons avec ce pauvre Jérémie.
Alors oui, bienvenue, merci Hervé, c'est toujours une joie de se retrouver. Alors c'est vrai qu'on a mis comme titre Jérusalem. Alors c'est vrai que Jérusalem, en fait, c'est connu comme étant la cité de la paix, c'est-à-dire que c'est le mot même, l'étymologie de Jérusalem veut dire peut-être, alors en tout cas, Salam ou Shalem, c'est clair, bonsoir. Ça, c'est clair, parce qu'on le connaît aussi bien en hébreu, shalom, qu'en arabe, finalement, salam, ça veut dire la paix, donc ça, c'est sûr. Ensuite, le début, hein, j'allais dire le Jéru, c'est peut-être la fondation, ou c'est peut-être ce qui enseigne, ce qui apprend, donc ce qui apprendrait, ce qui témoignerait de la paix. Alors, c'est vrai qu'on a mis un petit peu en jeu de mots, hein. Jérusalem, la paix de Dieu, parce que c'est bien ça qui est en question, bien sûr, ou la folie des hommes, parce que malheureusement, depuis quand même déjà quelques instants, Jérusalem est vrai, déchirée entre d'abord des peuples, oui, bien sûr, mais aussi des religions, et même les chrétiens s'y mettent, parce que, bon, il y a des églises qui sont On a vu des vidéos qui tournent sur Internet avec des religieux de cultes différents qui se tapent dessus parce que telle cérémonie a duré plus longtemps que, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est en même temps, je dirais, c'est... même comme ça, Jérusalem nous enseigne la paix, c'est qu'effectivement, ça pourrait vraiment se passer autrement, et ça nous donne soif, justement, de rechercher auprès de Dieu ce qui peut vraiment, enfin, fonder la paix entre les hommes. Alors, Jérusalem, on va le voir, cette lettre de Jérémie, et ce cri de Jérémie, finalement, il s'adresse à Jérusalem, hein, c'est ce qu'on voit dans le premier verset de ce chapitre 2 du livre de Jérémie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça s'adresse à Jérusalem ? En fait, ça s'adresse à Jérusalem comme étant le cœur d'Israël, donc le cœur du monde, finalement. Parce que dans la vision, je crois, dans la vision biblique, Jérusalem, c'est un peu un symbole, finalement. Quand on voit quand Salomon construit le temple, c'est assez clair. Il a dit, voilà, j'ai ce projet. D'abord, il s'était construit un joli palais. Enfin, c'était avec David. Ensuite, ils ont fait tout bien comme il faut. Puis ensuite, David et puis Salomon ont le projet de se dire, quand même, il faudrait faire un palais pour Dieu, finalement. Mais Salomon, quand il présente, finalement, dans la prière, ce projet à Dieu, il sait très bien, il le dit, on le voit hein, dans la Bible. Il dit, mais bien entendu, il s'agit d'un symbole, c'est-à-dire que Dieu est infiniment plus immense, jamais il n'habitera dans une maison de pierre faite de mains d'hommes. Mais quand les Israélites prieront en direction de ce lieu, eh bien, tu les écouteras, tu les entendras. Donc en fait, il s'agit bien là, je dirais consciemment, dans le texte biblique, Jérusalem, c'est un symbole de la présence de Dieu auprès de son peuple, au cœur même de son peuple, et ce peuple d'Israël qui a une vocation pour être un peuple prêtre, c'est-à-dire c'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour le monde entier. Vous voyez, un peu comme par cercle concentrique, il y a le mont du temple, il y a le temple sur le mont du temple, et puis il y a Jérusalem autour, et puis autour il y a Israël, autour il y a le monde finalement. Et ça, c'est une parabole, là aussi, et on le voit très souvent hein, dans les psaumes, dans les prophètes aussi, à mon avis. C'est une parabole de tout être humain, finalement. Le Jérusalem, à ce moment-là, est particulièrement Sion, la montagne, le temple, ça évoque le cœur de l'homme, ça évoque sa partie fondamentale, centrale, où réside son être profond, finalement, dans lequel... Dieu se propose de mettre la vie, de mettre une capacité à aimer, une créativité. Donc c'est ça qui est en cause. Quand il y a un cri contre Jérusalem, c'est pas simplement, si vous voulez, un récit historique qui rappelle quelque chose qui s'est passé à telle époque. Oui, aussi. Mais si nous avons gardé ces textes, si nous les méditons de génération en génération depuis maintenant quand même quelque temps, c'est-à-dire combien ? 2500 ans ? Peut-être un peu plus, voilà, peut-être un peu moins, 2400, 2400 ans.
Josias, là.
Là, c'est écrit.
C'est la réforme de Josias, mais c'est écrit après.
Quand est-ce que Jérusalem a été construit ? Il y avait une ville plus ancienne, et puis c'est David qui en a fait sa capitale, finalement. Alors, à l'époque, elle était peu fortifiée. Effectivement, ça a commencé à cette époque-là. Bon. Et à mon avis, à cette époque... Quoi ?
3000 ans.
3000 ans. À cette époque-là, on n'est plus tout à fait... J'allais dire plus tout à fait, c'est même un peu exagéré. On n'est plus dans le mythe, en fait. On rentre quand même là dans l'histoire, dans une partie historique, me semble-t-il, hein, dans cette histoire de David. Pour Abraham, je ne suis pas complètement sûr qu'on ne soit pas dans la mythologie... qu'on ne soit pas dans une réécriture théologique. Bon, donc, si vous voulez, quand il y a ce texte, il est avant tout une prédication qui nous est adressée aussi pour que nous laissions, je dirais, guérir dans le cœur de ce que nous sommes, guérir dans notre foi, guérir dans l'unité de notre être, finalement, qui puisse se rassembler et puis... fonctionner, je dirais, harmonieusement, dans une certaine paix intérieure.
Tout à fait. Je voudrais rebondir sur Jérusalem pour rappeler deux, trois petites choses dans nos cultes et liturgies. Je vous rappelle que l'an dernier, dans le culte catholique, c'est la montée vers Jérusalem de Saint-Luc qui a occupé toute l'année liturgique et particulièrement tout le temps du carême, cette lente montée vers Jérusalem que Jésus lui-même s'est, quel que soit l'évangéliste, infligé et qui représente bien plus que cette simple marche. Et que l'on voit déjà avec tous les prophètes, et notamment Jérémie. Regardez donc le verset 2. Il s'agit d'abord d'aller et de crier aux oreilles de Jérusalem et de s'adresser à la fiancée du Seigneur dans des termes tout à fait corporels. Au fond, le prophète exprime ce que tout un corps social dans son ensemble ressent. Et le malaise de Jérusalem, l'idolâtrie à laquelle elle est confrontée, toutes ces rues qui sont pavées de mauvaises intentions, c'est le peuple entier, c'est Judas dans son intégrité qui est mis à mal. Et voilà qui nous parle d'autant plus aujourd'hui, dans une situation de crise, dans une situation où l'idolâtrie est à tous les coins de rue, dans une situation où l'argent et je ne sais quel mirage ou je ne sais quel gain au loto l'emporte sur tant et tant de valeurs, le malaise est diffus. Que l'on fasse des voyages en avion ou autre chez tel ou tel dictateur ne change rien à l'affaire. Il y a un véritable malaise. Et c'est un malaise de cet ordre qui est exprimé tout au long de l'histoire du peuple. À chaque fois qu'il se trouve confronté à toutes les idoles de l'humanité. Et c'est au fond toujours la même histoire. Rappelez-vous de Caïn et Abel, et rappelez-vous de ce que ce Caïn a dû pérégriner jusqu'à fonder des villes, avec cette espèce de malédiction et cette difficulté des cités. Je crois que la cité est à la fois cette cité céleste, cette cité d'en haut à laquelle tous aspirent, qui est au fond l'Éden, qui est au fond l'origine de la vie de l'homme et de la femme, mais qui malheureusement, dans son vécu, est plutôt celui de la crise, celui de la ville assiégée, celui des murailles, celui des défenses, voilà. Et ce prophète, au fond, Jérémie, qui sort de sa campagne, qui n'avait rien pour s'opposer à toute une ville, encore moins à tout un pays, eh bien, voilà que cet homme faible, jeune, incapable, est choisi par Dieu pour aller dire la vérité, pour aller exprimer ce divorce, j'allais dire, entre Dieu et son peuple, entre le Dieu et la belle fiancée parée. Et malheureusement, ce n'est pas pour rien que les Jérémiades nous sont restées, mais Jérémie lui-même n'en tirera ni gloire, ni victoire. Ça ne veut pas dire que toute cette lutte soit vaine, mais ce qui veut dire, c'est que tout ce qu'on va lire correspond toujours, on se retrouve toujours avec le problème de l'humanité, avec cette fameuse obscurité que l'on avait découverte en regardant Caïn et Abel. Vous vous souvenez de cette partie sombre, cette partie noire, cette partie... Eh bien, la voilà qui revient sous toutes ses formes. Alors, elle prend le nom d'idole, parce qu'au fond, l'idole, vous savez, c'est la réalisation de l'homme. L'idole, au fond... c'est l'œuvre humaine. Et quand ça devient sacrifice humain, quand ça devient trahison, quand ça devient déni humain, ça nous fait tous souffrir, mais c'est l'histoire d'une réalité. Et ce qui est très étrange, c'est que tout ceci, nous le retrouvons dans la passion du Christ. Et en relisant Jérémie, j'avance un peu, en relisant Jérémie, je voyais les sacrifices humains à Baal, vous savez, ces choses, eh bien, on retrouve exactement tout cela derrière la mort de Judas, où le chant du potier, c'est le chant de Jérémie, où le lieu des sacrifices humains, c'est le lieu où son corps, nous dit la tradition des apôtres, explose dans le chant, vous savez, ce sang, le chant du sang. Eh bien, c'est ce même chant à travers Jérusalem, c'est la même réalité au temps de Jérémie, de la réforme de Josias, de l'exil, de la destruction de Jérusalem. C'est la même chose que l'on retrouve au temps du Golgotha, et j'allais dire que l'on retrouve au temps de Gaza, de Sderot, et de tout ce qu'on peut voir de pire aujourd'hui encore dans cette contrée. Alors, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, il y a une permanence et il y a dans toutes ces prophéties une éternité de la parole. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en triompher, ça veut dire que c'est toujours le même mal que nous affrontons, génération, nation, peuple, homme, femme, et que donc, ça veut dire que ce que nous allons dire et ce que nous allons lire, qui peut nous faire sourire, qui peut nous faire... eh bien, c'est au fond toute la réalité à laquelle nous sommes confrontés pleinement aujourd'hui.
Oui, ça, je crois que tu as bien raison, mais ça, c'est pas tellement finalement étonnant, parce que même dans notre corps, nous devons finalement revivre toute une genèse, une évolution, hein, presque depuis l'amibe jusqu'au... J'allais dire jusqu'au... Par le poisson, enfin, on passe pas par l'oiseau, mais... Mais il y a quand même toute une évolution. Le bébé, quand il naît, c'est vrai qu'il a encore, il est encore en genèse largement, et nous-mêmes, à notre âge, nous le sommes encore. Donc c'est normal qu'au niveau spirituel aussi, au niveau existentiel, nous ayons chaque génération à redevenir humain. Et bon, je crois que c'était Théodore Monod là, qui nous est assez cher. Il disait, mais en fait, nous ne sommes que pré-hominiens finalement. Parce que l'homme, c'est l'homme des béatitudes, c'est le Christ dans un sens, et donc finalement nous sommes que pré-hominiens dans une évolution, dans cette genèse de l'humain, nous sommes finalement peut-être un peu le chaînon manquant, comme on dit. Alors peut-être qu'on peut prendre ce texte, alors
oui.
Peut-être qu'on peut commencer par lire les quatre premiers versets, je ne sais pas, on va lire tranquillement, non ?
Vas-y donc.
Alors, on a mis la traduction Bayard qu'on lit d'habitude, ce qu'on appelle la Bible des écrivains, pour que ça... Parce que comme c'est un texte poétique, peut-être pour essayer de retrouver un peu un souffle poétique. Vient à moi la parole de Yahvé, disant, « Va, et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle Yahvé. Je me souviens chez toi de la loyauté de ta jeunesse, ton amour comme d'une fiancée, et comment tu marchais avec moi dans le désert du pays non semé. » Israël, c'est sacré pour Yahvé, c'est prémisse de sa récolte. Tous ceux qui le dévorent, ils sont coupables, le malheur tombera sur eux, sentence de Yahvé. Écoutez la parole de Yahvé, maison de Jacob, et vous, toutes les familles de la maison d'Israël. Vient à moi la parole de Yahvé, moi je trouve que c'est déjà beau, parce que c'est pas tout à fait marqué comme ça dans le texte, en fait, il y a marqué « et voici », ça c'est un... Ça marque vraiment l'irruption de Dieu quand même, mais je crois que c'est bien fait d'avoir mis « Viens à moi » la parole de Yahvé, parce que c'est bien ça finalement. On est là, et tout d'un coup, il y a l'irruption de la présence de Dieu qui vient avec sa parole. Et moi, j'y vois bien là finalement le Créateur, vous voyez, qui apporte une impulsion nouvelle. Et c'est vrai qu'en général, Dieu est assez discret dans nos vies. Il ne vient pas comme ça nous casser les pieds, j'allais dire. Et... Bon, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Souvent, nous nous plaignons de l'absence de Dieu dans notre vie. Finalement, c'est assez normal. Souvent, dans la Bible, Dieu est présenté comme veillant, mais absent, discret, finalement. Il y a beaucoup de paraboles de Jésus avec où Dieu est comparé à un maître qui donne ce qu'il faut pour gérer notre existence et puis qui s'en va pour un long temps et qui revient après. Mais ici, c'est la même chose finalement. Tout d'un coup, Dieu intervient, c'est parce qu'il y a vraiment besoin de salut. Voilà. Il y a vraiment, on court à la catastrophe. Mais finalement, c'est ce que les enfants attendent de parents un peu respectueux, qui ne soient pas sans arrêt sur leur dos, sans arrêt, qui lâchent un peu la bride, j'allais dire, pour qu'ils puissent apprendre à vivre, qu'ils puissent faire leur chemin. Mais bon, des parents, ils jettent quand même un œil. Et puis si tout d'un coup, l'enfant se dirige en train de grimper sur le balcon, bon, bah, les parents sont là et disent « Oula, ça ne se fait pas trop, ça ». Donc je crois que c'est ça. Voilà, il y a cette intervention de Dieu, mais quand Dieu n'intervient pas aussi visiblement, spectaculairement dans notre vie, ça ne veut pas dire que nous sommes sourds à sa parole et à sa présence. Ça peut être simplement que Dieu nous dit « Tu as assez de billes en main pour te débrouiller, finalement, avec, je dirais, avec ton intelligence, avec ta connaissance du bien, avec la Bible, avec la prière aussi, avec... voilà. Et donc, c'est aussi une liberté que Dieu nous donne, une grâce que Dieu nous donne d'être absent. Mais là, bon, il intervient, et quand il dit « va », c'est-à-dire qu'il fait de Jérémie un apôtre. Mais cet appel nous est bien sûr aussi adressé, nous sommes aussi envoyés dans le monde, bien sûr. Ou peut-être que notre conscience est appelée, crier aux oreilles de Jérusalem, notre conscience est appelée à réveiller le cœur de notre être, finalement, chercher à le domestiquer un peu, à l'attendrir, à l'ouvrir à la puissance créatrice de Dieu, à son esprit, c'est ça, voilà. Peut-être, donc je comprends de deux façons, moi, ce « va » écrit aux oreilles de Jérusalem. Il y a l'appel à aller dans le monde pour crier, peut-être aussi une parole prophétique, quelle qu'elle soit, parce que c'est chaque fois ça sera nouveau, bien sûr. Mais c'est aussi un appel à crier au cœur de notre être, voilà, que notre intelligence se mobilise pour que le cœur de notre être soit touché, non ?
Oui, je voudrais apporter une petite nuance à ce que tu viens de dire, Marc, sur la présence-absence de Dieu. En effet, parce que lorsqu'on regarde l'histoire biblique de l'Exode, ça ne s'est pas passé si simplement que ça. Les étoiles se sont transformées en sable et les murmures de protestation du peuple sont devenus des révoltes ouvertes. Il y a eu Moïse. C'est-à-dire que, en effet, Dieu n'est pas... tout-puissant, intervenant sur tout, levant des tempêtes de sable, etc., intervenant à tout coin de rue, je dirais. Mais cependant, il peut susciter des hommes et des femmes capables de représenter le bon droit. Et je crois que la notion même de prophète, ce soir, devrait nous interroger, parce que je ne crois pas qu'on puisse dire que nous manquons de prophètes. En revanche... La cacophonie ambiante et les faux prophètes font que nous avons bien du mal à entendre les vrais prophètes qui, de tout temps, et je le crois, se lèveront, entendront et proclameront la justice. Je me souviens d'une parole de Régis Debray, d'ailleurs, disant que dans sa jeunesse tumultueuse de guérilla, il avait croisé tous les marxismes, toutes les révolutions, tous les militarismes, et qu'au fond, à la fin de sa vie, il n'y avait qu'une catégorie de gens qui l'avaient impressionné, c'était les chrétiens. Pourquoi disait-il ? Parce qu'au fond, il a vu tous les autres se retourner comme des crêpes, pour le pouvoir, pour l'argent, pour la puissance, pour le partage de je ne sais quoi. En revanche, il a noté, alors globalement, que le chrétien se levait au nom d'idéaux qui ne lui revenaient pas directement. C'est-à-dire qu'il se levait pour des justices ou des valeurs qui ne lui revenaient pas, qui ne lui apportaient pas forcément, comme notre pauvre Jérémie d'ailleurs, ni gloire ni fortune. Et je crois que, il ne s'agit pas du tout de s'enorgueillir d'être chrétien, ce n'est pas le propos. Je crois qu'il faut se dire que, si l'absence de Dieu est remarquable, comme dit la Bible, c'est dans le silence et dans le murmure qu'elle devient présence, et non pas dans le Superman et les sauveurs de tout poil qui se lèvent et qui s'effondrent tout aussi rapidement qu'ils se sont élevés. Il y a peut-être sur la durée une présence et une aide plus durable, plus résistante, mais moins visible. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.
Oui, d'accord. Alors, cela dit, c'est vrai que quand tu dis prophète, quels sont les vrais prophètes? Mais je crois que bon, dans l'annonce justement de Jérémie, Ézéchiel, et ce qui se réalise en Christ, c'est qu'en fait, chaque personne de l'humanité est appelée à être prophète. C'est-à-dire que nous sommes appelés, bon, ça c'est ce qu'on voit, bon, on parle don de l'esprit, si vous voulez, mais c'est ce que vient dire le baptême. Je veux dire, c'est pas, peut-être pas le baptême qui le déclenche, mais c'est ce que vient dire le baptême. Nous sommes faits prophètes, voilà, par la grâce de Dieu, en s'ouvrant à son esprit. Nous sommes faits, oui, pour entendre quelque chose qui vient de Dieu et pour se sentir envoyé, pour crier un appel à la raison, un appel à vraiment se saisir du meilleur et se aller à la source, finalement, à cette source qu'est Dieu. Et ça, je crois que... Donc on peut se sentir directement concerné par cet appel qu'on a ici dans le début de Jérémie 2. Alors, ensuite, je trouve qu'il y a une assez belle parole, voilà, où tu disais, effectivement, on est comparé à une fiancée. Et avant de parler finalement assez mal, hein, de gronder, finalement, Jérusalem, de gronder Israël, eh bien, il commence, là, ce discours commence par se souvenir de ce qu'il y avait de beau, ce qu'il y avait de bon, ce qu'il y a de touchant dans le cœur de ce Jérusalem, hein, le cœur d'Israël, dans notre cœur, hein, capable d'une loyauté, d'une fidélité, d'une tendresse qui est celle de notre jeunesse, ou plutôt, je dirais, on peut le comprendre de deux façons, qui est à l'origine de ce qu'il y a de meilleur dans notre être, finalement. Et quand on met ton amour comme celui d'une fiancée, eh bien, là, c'est assez beau, parce que c'est-à-dire que le modèle d'alliance qui est proposé dans ce texte, mais d'ailleurs, on le verra, je dirais, de manière constante, hein, pratiquement, l'alliance entre Dieu et son peuple, c'est vraiment une alliance d'amour. C'est une alliance que rien ne peut remettre en cause. Donc, Dieu, il critique, il appelle, il discute, il dit, ben, regarde où ça te conduit, finalement. Mais il garde sa grâce, il garde sa bienveillance, il ne remet pas en cause cette alliance, et le fait même qu'il vienne interpeller, prévenir, c'est encore une manifestation de cet amour, de cette grâce, de ce pardon qui est avant même la repentance, mais qui appelle la repentance, un changement de voie. Donc invoquer d'emblée l'idée qu'elle est fiancée, que nous sommes fiancés de Dieu, c'est déjà posé comme base, eh bien, un amour qui est plus fort que tout, un amour qui est subjectif, car l'amour de Roméo pour Juliette, c'est subjectif, hein. Souvent, quand on voit deux personnes, on se dit, mais qui s'aime? On leur dit, mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Donc, c'est sympa, parce que, justement, c'est pas objectif, c'est subjectif, et l'amour, c'est ça. L'amour, c'est ça, c'est un amour, c'est sans condition. Et donc, quand on pose ça ici, c'est bien ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu nous trouve? Ben, on peut des fois se poser la question. Eh bien, c'est justement ça qui est une promesse de grâce, et c'est justement ça qui ouvre notre liberté. On n'est pas sous la menace d'un Dieu qui pourrait nous vouloir du mal, on n'est pas sous un chantage, on est sous la grâce. Et ce mot qui est employé aussi, la loyauté de ta jeunesse, c'est le mot, en fait, de la grâce. C'est-à-dire que Dieu discerne au cœur, à la racine de ce qu'il y a de meilleur en nous, une capacité à cet amour gratuit qu'il est lui-même.
Alors, ce qui est toujours embêtant avec nos textes, c'est qu'ils disent tout et leur contraire. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc, si nous nous arrêtions à ces quatre premiers versets, mais malheureusement, il y a la suite. Et la suite est un peu désolante. Parce que tout de même, les versets suivants sont un réquisitoire en bonne et due forme. On se croirait à un tribunal de divorce. Et là, les reproches tombent les uns après les autres de manière extrêmement virulente. Le plus gros reproche, on l'aura compris depuis le début, c'est au fond avoir délaissé l'amour pour Dieu pour tomber dans le faux amour pour l'idole, l'idolâtrie sous toutes ses formes, qui, en quelque sorte, a détourné la fiancée. Et il semble que ce genre de reproche s'adresse à l'humanité sur plusieurs générations. Dès l'Exode, dès le désert, il y a le veau d'or. À chaque fois, au fond. Et là, ça me fait penser à nous tous dans notre vie de chrétiens. Vous savez, il y a le zèle des convertis, comme ils sont admirables, les convertis, les catéchumènes, et comme ils sont pleins de zèle et pleins d'amour. Et ils sont même effrayants parfois. On se dit, mon Dieu, mais jamais j'ai été aussi enflammé, etc. Et puis, ce qui est un peu rassurant, c'est que quelques années après, voilà. Qu'est-ce que l'amour? Alors, on va me dire que c'est pas moi, prêtre célibataire, qui peut en parler le mieux, etc. Mais comment ça se manifeste avec Dieu? C'est déjà quelque chose de très particulier. Dieu qui est amour et qui nous donne cet amour, et nous le reconnaissons, mais ça ne nous empêche pas de faire nos bêtises. Et alors, faire nos bêtises, j'allais dire, c'est toute la part d'humain en nous, très bien. Mais lorsque faire nos bêtises revient à enlever l'amour qui est en nous pour du pacotille et du bling-bling qui ne nous apporteront rien, ça devient de la bêtise purement bête. Et pourtant, c'est ce que nous constatons dans toute l'histoire biblique et dans toutes nos histoires. Et c'est là que ça se corse.
Peut-être qu'on peut lire les versets suivants, alors.
Vas-y, non vas-y, vas-y. Un florilège de nos horreurs.
Oui, mais moi, j'y discerne pas trace que... Mais comme dans d'autres textes bibliques, c'est bien connu, en fait, il y a deux alliances. Il y a une alliance plutôt inconditionnelle avec Abraham. Quoi qu'il se passe, je t'accompagnerai, vas-y. Et puis bon, alors si tu t'égares, ben, je te ramènerai, mais là où tu iras, j'irai. C'est une alliance vraiment inconditionnelle, basée sur la grâce, la bénédiction donnée a priori. Et puis il y a la deuxième loi, finalement, dans le Deutéronome, dans le Lévitique, qui est beaucoup plus conditionnelle. Avec marqué, bon alors l'alliance à ce moment-là, c'est plus celle d'un père pour son enfant, ou ça, une mère pour son enfant, c'est plus celle du mari pour, du fiancé pour sa fiancée, de Roméo pour Juliette, c'est plutôt une alliance dans le Deutéronome, une alliance, un pacte, un contrat, comme entre deux pays, bon alors on se met d'accord pour ça, si tu respectes le contrat, ça ira très bien. Si tu ne le respecteras pas, tout est fichu, et puis, je t'écrabouille. Alors, on va voir, je crois, justement dans ce texte, et puisqu'on va entrer dans des passages plus pénibles, on va voir que ce n'est pas tellement le cas ici. Et toujours, les ennuis, etc., ce n'est pas Dieu qui vient nous taper dessus, c'est des ennuis autres qu'on a bien cherché à avoir, parce qu'effectivement, si on adore une idole, si on adore un bout de bois, eh bien, la source même de notre être... Est quand même problématique. Si on chasse l'amour que Dieu a mis en nous, qui est la racine même de notre vitalité, de notre vie, de notre jeunesse, c'est vraiment dramatique. Mais c'est plutôt ça, finalement. Ce n'est pas une punition, c'est quelque chose, finalement, de tout naturel. C'est logique, la vie même fonctionne comme ça, au niveau existentiel, au niveau spirituel, au niveau humain, c'est comme ça. Donc, verset 5. « Ainsi parle Yahvé, mais quel tort m'ont trouvé vos pères pour que de moi ils s'éloignent ? Et ils s'en sont allés derrière le vide, et ils se sont vidés. Ils n'ont pas dit, où est Yahvé qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a fait traverser le désert où personne ne passe, là où il est stérile, là où on s'enfonce, au pays de la sécheresse et de l'obscurité, au pays où personne ne passe, où pas un homme ne demeure. Je vous ai fait entrer au pays de jardin pour manger ses fruits et toutes bonnes choses, et vous êtes entrés, et mon pays, vous l'avez souillé. De mon héritage, vous avez fait une horreur, et les prêtres n'ont pas demandé où est Yahvé. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas reconnu, et les bergers contre moi se sont rebellés. Les prophètes ont prophétisé par Baal, et ils suivent ceux qui ne leur servent à rien. C'est pour cela que j'entre en procès avec vous, sentence de Yahvé, et avec les fils de vos fils, j'entre en procès. Alors voilà, on s'arrête là donc au verset 9. Moi je trouve déjà, si vous voulez, il y a quelque chose qui est très beau et qu'on trouve assez souvent dans les évangiles en fait. Quand la Bible finalement nous propose un reproche, alors nous propose, parce qu'on peut toujours fermer le bouquin, aller voir autre chose. Quand elle nous propose un reproche, c'est en fait un service qui nous est offert, mais il est souvent proposé comme une question. Et ça, c'est quand même passionnant, c'est posé comme une question. Et là, il nous propose ça comme un procès. C'est-à-dire un procès, ben, il y a des avocats, il y a un juge, voilà. Et donc, ben, on peut se défendre, on peut présenter nos arguments en disant ben, « voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi, je pense qui, je pense quoi ». Et ça, c'est quand même un respect incroyable, un respect incroyable. Et en même temps, je crois que c'est quand même une pédagogie. On n'est pas dans un dressage. On est dans un appel à la réflexion, un appel à réfléchir, un appel à analyser, voilà. Hein. Quel tort m'ont trouvé vos pères pour que de moi ils s'éloignent ? Bah, écoutez, réfléchissez quand même, réfléchissez. Cet amour qui était au fond de vous, tous ces bienfaits finalement, tous ces... Et ça, je crois que c'est quand même important de noter dans notre histoire, dans celle de nos parents, de nos grands-parents, des générations, bah, je veux dire, les traces... Des bienfaits, des bénédictions de Dieu. Et puis bon, est-ce que jamais Dieu, je ne parle pas des religions ou des religieux ou des hommes, bien sûr, il y a des faux prophètes, des gens qui font des erreurs, on le voit, le texte est tissé de ça. Plus loin, il nous dit, mais en fait, votre manteau est taché du sang des innocents, des pauvres. Vous voyez, donc oui, bien sûr, il y a nous comme religieux, malheureusement. Pas simplement parce qu'on est prêtre et pasteur, mais nous, comme chrétiens, comme bouddhistes ou comme musulmans, nous avons du sang sur le bord de notre robe, du sang des innocents et des machins. Mais comme tout homme, comme toute idéologie, comme toute culture, bien sûr, comme tout pays, plus ou moins. Donc, si vous voulez, il pose la question là, voilà. Est-ce que, voilà, vraiment en Dieu, on a trouvé, on a un reproche à faire à Dieu, voilà. Est-ce qu'on a un reproche vraiment? Non, franchement, cette question me fait réfléchir. Et voilà, qu'est-ce que bonne raison on aurait d'abandonner Dieu ? Alors de se fâcher contre l'Église, oui, de dire voilà, les religions... Mais justement, parlons-en, justement. Dans cet écart entre l'Église, toutes les Églises parlent de repentance et conversion de l'Église, bien sûr. J'allais dire même Rome, mais c'est pour titiller un peu Hervé, c'est... Non, non, mais je rigole, bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. Et je peux justement maintenant dire que l'Église catholique, je veux dire, en ce siècle, en six siècles derniers, a fait des pas de géant que aucune Église que je connaisse, aucune religion n'a fait en si peu de temps. C'est stupéfiant. Donc, oui, il y a un appel. Alors, on ne peut pas, voyez, je veux dire voilà, les croisades, l'Inquisition, et puis Calvin qui a brûlé Cervet, et puis je ne sais pas quoi, Luther contre les Juifs, machin. Bien sûr, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça appelle pas simplement à dire oui, c'est vrai, ça appelle à reconnaître les traces de ce péché, de ces fautes, dans les hommes que nous sommes, les hommes, les femmes que nous sommes. Mais de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire contre Dieu? Alors peut-être pas bon, le Dieu que les hommes se forgent à la main, les théologies terribles, terrifiantes, avec un Dieu menaçant qui vient... Non, pas ce Dieu-là. Le Dieu qu'on rencontre, que Jésus-Christ présente. Voilà. Le Dieu que nous sentons dans la prière, un Dieu de tendresse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Comme il le dit, c'était... Dieu, c'est vraiment source de... Je dirais de libération. Il nous a fait monter d'Égypte. Il nous a fait. Il y a vraiment une libération, une élévation de l'homme par la relation à Dieu. Ça, je dirais, tous les peuples en sont les témoins, tous les croyants de toutes les religions. Il nous a fait entrer. C'est pas simplement une promesse pour le monde futur, je sais pas quoi. Non, c'est. Non. Combien de témoins on pourrait rencontrer, disant, ben oui, avec la foi, avec Dieu, j'ai mangé des fruits de toute bonne chose dans un jardin de délices dans lequel Dieu m'a fait entrer. Ça, c'est pas abstrait, c'est pas de la théologie abstraite, à mon avis, vraiment. C'est une expérience spirituelle. Alors oui, comme c'est marqué, hein, les dépôts de mon héritage, vous avez fait une horreur. Ah oui, oui, c'est vrai. Nous, en disant au nom de la foi, au nom de la vérité, au nom de même au nom de l'Évangile, Dieu nous vienne en pitié, si vous voulez. On a fait des horreurs. Enfin, des hommes, des femmes ont fait des horreurs, et puis nous, à notre mesure. Voilà, peut-être, mais bon.
Oui, et puis le deuxième aspect de tout cela, c'est quand même, il y a toujours derrière la possibilité de se convertir. C'est-à-dire que ça n'est pas, puisque nous étions en procès, ça n'est pas un verdict avec une peine, peine de mort ou peine de prison ou je ne sais quoi. Et il y a pourtant des punitions, mais c'est dans un but de conversion. Ce dimanche, nous avons entendu cet appel à être sel de la terre et lumière du monde, et qui ne doit surtout pas nous conduire à je ne sais quelle gloire, glorification, mais au contraire à une certaine modestie, à une humilité. Et il y avait avec les versets d'Isaïe qui nous dit que si nous nous tournons vers celui qui a faim, si nous savons donner de bon cœur, alors de nos ténèbres, parce que nos ténèbres existent, se lèvera la lumière de midi, à partir même de nos ténèbres. C'est-à-dire que, d'abord, pour que se lève la lumière de midi de nous-mêmes, il faut d'abord reconnaître les ténèbres. Et il faut convertir, éclairer nos ténèbres. Et probablement que ce travail, car il y a un travail, il y a un travail de purification, il y a un travail de validation qui est fait par tous les prophètes, que, comme Jésus l'indique, que Jérusalem n'a cessé de lapider et de mettre à mort, tous les prophètes, sans exception, ont d'abord fait constater au peuple, au roi et à je ne sais qui de Jérusalem, qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils étaient dans l'idolâtrie, qu'ils étaient surtout loin de Dieu. Alors évidemment, la première réaction, c'est de tuer le prophète, mais ça ne change pas le problème, au contraire.
C'est casser le thermomètre.
Oui, c'est ça. C'est casser le thermomètre, mais la fièvre, elle monte encore un peu plus, puisque l'enjeu, il est du côté de Dieu et de son pauvre prophète. Et combien de paraboles. Et Jésus en est à la fois l'exemple ultime et le contre-exemple, puisque précisément son don total nous libère et nous sauve du pire auquel nous avons accédé en lui-même. Mais voilà pourquoi ces prophètes, et je crois que nous devons les aimer toujours plus, Isaïe, Jérémie et tant d'autres, quelle que soit leur profondeur historique et leur profondeur, je dirais, biblique, car nous savons, hein, on en parlait très brièvement, Isaïe s'étend sur plusieurs siècles et Jérémie a sûrement, à travers Baruch et d'autres encore, une profondeur d'auteur qui ne se limite pas à sa propre personne. Mais encore une fois, à travers eux, ce sont des prototypes de l'humanité et ce sont des prototypes de nous-mêmes, ce sont des parts de nous-mêmes qu'il faut recevoir, apprécier et aimer. Car ce sont ces parts d'humanité qui sont en nous-mêmes qui nous relient à Dieu. Ce sont des gens, désolé mesdames, plutôt des hommes, mais il y a eu des prophétesses, qui ont réalisé leur humanité en étant du côté de Dieu. Ils l'ont en général tous payé de leur vie. Mais, alors on ne nous demande pas à tous, si nous sommes prêtres, prophètes et rois, à la fois d'être lapidés, etc. Mais il y a sûrement une part de nous qu'il faut conserver à tout prix, au péril de la vie de cette part-là, qui nous sauvera. Et je crois que là, à cette condition-là, on entendra véritablement ce que la parole de Yahvé est venue dire au prophète qui nous le rappelle.
Oui, merci. Oui, effectivement, le prophète, alors c'est celui oui, qui apporte quelque chose qui vient de Dieu et qu'on peut entendre, soit dans le monde, soit en nous-mêmes. Et là, si je refais cette double lecture finalement, c'est que là, effectivement, on peut se rappeler dans les générations passées, les paroles des prophètes et puis tout ce que Dieu a apporté. Mais je pensais tout d'un coup aux psaumes. Si vous voyez, dans les psaumes, on voit souvent des moments où le psalmiste dit « Mais je ne sens plus la présence de Dieu. Voilà. Dieu est absent de ma vie. Je n'ai plus le contact. » Et à ce moment-là, il dit « Je me souviens des moments où on montait avec des chants et la fête vers Jérusalem. Et où il y avait cet élan de foi. » Et ce qui me fait penser à ça aussi, c'est ce que tu disais pour les nouveaux convertis qui, au bout de quelque temps, bien, le feu passe et ils sont dans un moment où il faut s'installer sur le long terme et où il y a comme un moment difficile à passer pour atteindre un deuxième souffle. Eh bien, je crois qu'il peut y avoir là, dans ce qu'on vient de lire, dans ces versets donc 5 à 9, bon, on peut se rappeler justement ces bons moments dans le passé où on a pu sentir une expérience de Dieu, où on s'est vraiment intéressé, passionné pour la lecture de la Bible. C'est ce que font les psalmistes. Et je crois que là, c'est un conseil très pratique, je dirais, de l'ordre de la vie spirituelle. Mais même, je dirais, si on pourrait le dire pour la vie de couple ou pour le je ne sais pas quoi, on peut vraiment se rappeler les meilleurs moments, se recentrer dessus, repartir de ça. Et puis ensuite, eh bien, allons en route, quoi. Alors, je trouve qu'aussi les reproches qui sont donnés...
Ah, juste là, petit clin d'œil, puisque tu m'en as fait un tout à l'heure. Là, je te trouve très ignatien. Là, on est en plein dans Ignace de Loyola. Vous savez que dans les moments de désolation, qui sont hélas nombreux dans nos existences, rappelons-nous les consolations et essayons de nous remettre dans les moments de consolation et qui peuvent être précisément de déguster la Bible, de déguster des textes qui nous ont remplis de joie. Et petit truc, essayons d'en avoir un ou deux sous la main. Et puis quand ça ne va pas, relisons ça. Je vous fiche mon billet qu'on retrouve un petit étincelle. Et là, c'est vraiment la consolation. Et je crois qu'il y a... Là, c'est le Père aimant qui nous rappelle que... N'ayez pas peur.
Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Parce que les canaux, finalement, c'est un peu comme des canaux qui... dans lesquels la grâce a fait son chemin, et ces canaux existent encore, voilà. Mais il faut recreuser les sources, comme disait Isaac. Oui. Alors, là, il y a aussi des pistes, j'ai l'impression, au verset 8, voilà. Donc, on est dans un problème. Donc, la foi, le pays que Dieu nous donne est souillé, voilà. Donc, on pourrait dire en nous la foi, ou bien dans notre famille, ou bien dans le monde, si vous voulez, ça fonctionne sur tous ces niveaux. Et les prêtres n'ont pas demandé où est Yahvé. Donc, une des fonctions des prêtres, et peut-être que c'est effectivement, bon, là aussi, encore, ça peut être pris comme quelque chose de très pratique. Finalement, eh bien, c'est entrer dans cette interrogation. Et le rôle, quand même, peut-être, du prêtre, voilà, c'est de réveiller cette recherche de Dieu. Voilà, recherchez Dieu. Ben, vous n'avez plus le contact, vous n'y croyez plus, ben, recherchez-le. Voilà. Et ça, je crois qu'il n'y a pas peut-être de prédication plus courte, mais derrière, on peut mettre amen, et si vous voulez, si c'est entendu, ben, ça peut quand même faire un sacré belle homélie. Ensuite, les dépositaires de la loi ne m'ont pas reconnu, ne m'ont pas connu, en fait. Donc là, c'est peut-être la deuxième idée qui est donnée, voilà. Dépositaires de la loi, ben, c'est ceux, en fait, qui se saisissent de la Bible, qui s'en saisissent. Il n'y a pas marqué les dépositaires, en fait, dans le texte. Il y a marqué ceux qui s'en saisissent. Voilà, ceux qui s'en saisissent de ça. Donc, ben oui, on peut prendre la Bible et puis chercher à connaître Dieu. Et il y a là une démarche intellectuelle, consciente, de lectio divina. Si c'est dans une recherche vraiment de Dieu, pas simplement... mais si ça peut être de la théologie pure, finalement, pour connaître Dieu, bon, dans l'idée de le chercher quand même. Les bergers contre moi se sont rébellés. Les bergers, ils étaient connus comme étant dans la prière, en fait. Alors, c'est vrai que ce n'étaient pas des très bons religieux, finalement, parce que ce n'est pas facile quand on est dans les champs Si vous voulez, il faut les moutons. Bon, je veux dire, s'il faut le jour du sabbat aller conduire les moutons, ben, il faut les conduire à la source. On ne peut pas laisser ces pauvres bêtes crever par 40 degrés de chaleur. Il faut, tant pis, on va travailler ce jour-là et puis bon, Dieu comprendra. Donc, si vous voulez, les bergers, ils sont connus par contre dans la Bible hein, pour leur tendresse, hein, comme dans le psaume 22-23, voilà. Comme le bon berger qui porte ses brebis dans Luc 15 ou dans Jean 10, bien sûr, le bon berger qu'est le Christ. Mais le berger, c'est la prière, donc c'est la tendresse, c'est la prière aussi, la louange à Dieu, comme avec David. Donc là, je crois, oui, ça évoque, ben on peut prier. On peut prier, on peut faire entrer dans la louange, on peut entrer dans la tendresse plutôt que se rebeller contre Dieu. Enfin, après, il y a les prophètes. On prophétisait par Baal. Alors, catastrophe, effectivement. Le faux prophète en nous qui rappelle de bien adorer la puissance, de bien sacrifier nos enfants, finalement, non ? Pour avoir de la chance. Bon, bien sûr, il faut lire ça d'une manière allégorique, mais oui, cette voix, elle existe en nous. Même le Christ y a été sujet, puisque dans les tentations... Tout d'un coup, il voit toutes les nations et se dit, mais en fait, avec mon autorité, avec mon intelligence, avec mon charisme, eh ben, je pourrais devenir big chef. Mais cette tentation, quand même, l'effleure, si vous voulez. Donc, oui, écouter la voix du faux prophète de Baal à l'intérieur de nous-mêmes, ça peut être assez facile. Donc, par contre, il y a un vrai prophète en nous qui annonce vraiment la parole de Dieu. Et ils suivent quoi, finalement ? Après ces quatre fonctions, finalement, quatre démarches qui nous sont proposées, pour nous-mêmes, mais bien sûr pour l'Église, pour notre pays, notre pauvre pays qui a si peu de place pour Dieu. Peut-être que l'Albanie en a encore un peu moins, mais à part ça, je ne sais pas. Donc, eh bien, voilà, ils suivent ceux qui, finalement, servent à rien. Ça fait rien avancer. Il n'y a aucun approfondissement, aucune élévation, aucun enrichissement de l'être, de la vie, de la qualité de relation, qualité d'espérance, qualité de... Voilà. Donc, il y a ça, je crois, quelque chose là, il y a des versets que je trouve assez forts et en même temps très pratiques, finalement, très concrets, très enracinés dans ce qui peut nous rendre la vie plus belle, non ?
Oui, absolument. Et là, je voudrais citer le verset 13, qui, à mon sens, est un peu mal traduit quand même, parce qu'on perd un petit peu. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. C'est la citerne. Et donc, dévastation sur vous, les versets 12 et 13. Dévastation sur vous, soyez secoués, soyez ruinés totalement, sentence de Yahweh. Car il a commis double mal, mon peuple. Ils m'ont oublié, l'oubli de Dieu. Moi, la source des eaux vives, là on pense à la Samaritaine, pour creuser eux-mêmes des citernes poreuses, des citernes qui fuient. Ce verset est très célèbre, des citernes fendues. Ça parle, ça, hein, qui ne retiennent pas l'eau. Et finalement, c'est misère de l'homme sans Dieu. Parce que toutes ces idoles, c'est très bien, mais ce n'est pas des dieux, c'est des œuvres humaines. Du bois, de l'or, tout ce qu'on veut. C'est donc l'homme sans Dieu. Et l'homme sans Dieu, il creuse lui-même sa citerne. Seulement l'eau vive, c'est de l'eau qui fuit. C'est un puits sans fond. Et bien, ça donne un peuple asséché. Ça donne une aridité, ça donne un manque de sens. Ça vous rappelle rien, tout ça ? Lorsque je disais que le prophète Jérémie était un prophète de malheur, évidemment, enfin, disons, de désolation, de tout ce qu'on veut, disons un prophète de crise. Et je crois que s'il y a bien des choses contemporaines, c'est bien dans ces citernes fendues, où beaucoup d'idées circulent. Internet, c'est merveilleux, le monde entier réfléchit. Mais ça fuit, Et ce n'est pas Wikileaks qui va nous sauver. C'est un brassage formidable, mais c'est de l'eau vive. Est-ce que ça nous nourrit vraiment ou est-ce que ça passe? Et je crois que c'est là qu'on voit que ce procès et un peu cette volée de bois vert qu'on se prend, nous, à travers le peuple d'Israël, hein, eh bien, ma foi, c'est assez utile parce que ça nous pose les questions existentielles, comme tu disais, et au fond, ça rejoint nos questionnements les plus actuels. C'est où qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on donne aux générations qui viennent? Est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on remplit nos citernes d'une bonne eau qui les abreuvera bien longtemps? Ou est-ce qu'on fait des trous partout et que l'eau fuit partout?
Oui.
Ça n'a pas l'air de vous réjouir.
Non, mais c'est intéressant ton histoire oui. de citerne, de citerne fendillée, parce que c'est même pas une citerne. Voilà, il faut juste boire à la source. Donc il y a quelque chose de vraiment dynamique et ça rappelle, si vous voulez, dans le désert justement, dans ce cheminement, on ne pouvait pas stocker la manne. Il fallait tous les jours prendre sa part de manne qui venait du ciel. Alors d'ailleurs, manne, ça veut dire en hébreu, c'est du manhu, c'est-à-dire c'est du qu'est-ce que c'est que ça. Donc en fait, on est nourri par Dieu, par du questionnement. Ce questionnement finalement qui permet de faire son chemin, qui nourrit ce cheminement dans le désert par la parole, finalement, pour aller vers la vie que Dieu nous propose, la qualité de vie que Dieu nous propose. Alors qu'une citerne, une citerne, on a fait réserve. Il y a de l'eau dedans qui est croupissante un peu. Mmh. Et puis ça fuit, bien sûr, ça fuit. Puis on boit, ça fuit. Au bout de quelque temps, il y a un mauvais goût, il n'y en a plus. Alors qu'une source, c'est toujours un peu ambigu, bien sûr. Hein, la source d'eau vive, c'est l'eau qui est vive parce qu'elle est, elle bouillonne, elle est neuve. Quoi. Et en même temps, c'est la source qui donne la vie, quoi, bien sûr. Donc ça, c'est une belle image, oui, qui nous rappelle la Samaritaine avec cet appel, finalement, hein, de Jésus à ce que nous devenions tous christiques, voilà. Même, j'allais dire, une femme, et encore pire, une femme samaritaine, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque. Il y a bien eu Myriam, la sœur de Moïse, qui était prophétesse, hein, qui met dans la bouche de Moïse, finalement, le chant de louange à Dieu après la traversée de la mer Rouge. Mais bon, ensuite, il y a eu guerre, beaucoup de prophétesses, peut-être Rebecca. Mais bon, en tout cas, là, voilà, il y a des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Hein, celui qui boit, c'est de la source qu'est le Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement venez à l'église et vous serez à la source. C'est. L'Église, c'est de l'ordre des paroles qu'on a vues tout à l'heure. C'est quelque chose qui nous dirige vers Dieu pour que nous buvions directement nous-mêmes à la source qu'est Dieu et qu'ensuite, des fleuves d'eau vive coulent à l'intérieur de nous-mêmes et que finalement, il y ait ce jaillissement par l'Esprit qui nous donne d'avoir, à un moment donné, peut-être la parole juste, le petit geste juste, la petite décision qui sera la petite décision courageuse et juste ou courageuse ou peut-être simplement facile et belle. Des fois, on a quand même le droit aussi d'avoir des fois des très beaux gestes à faire qui nous coûtent peu et qui nous réjouissent grandement. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'Évangile, en fait, qui résonne, et quelque chose qui est très, très beau dans ces histoires. Voilà. Alors le verset 17, hein, « Qu'est-ce donc que tu commets contre toi-même ?» D'abandonner Yahvé ton Dieu qui te dirigeait sur le chemin. Il y a une sorte de pitié, si vous voulez. C'est pas Dieu qui. Voilà, c'est pas Dieu qui tape. Hein. Au verset 19. Ton malheur te disciplinera, tes rébellions t'accusent. Et sache enfin voir clair, finalement. C'est le mal et cette amer d'oublier Yahvé ton Dieu. Ça, c'est tout à fait ça, si vous voulez. Le mal, c'est pas une offense contre Dieu, et puis Dieu serait fâché, et puis nous garderait rancune, ou je sais pas quoi. C'est pas la question, si vous voulez. C'est pas la question quand on est aimé par Dieu, bien sûr. Mais la question, c'est que ces mal, ça fait de la souffrance, ça fait de la mort, et c'est amer, c'est souffrance pour nous, c'est amertume, c'est manque de vie, c'est manque de dynamique, c'est... On boit une eau croupissante, on boit une eau vaseuse du Nil avec des bestioles crevées dedans, des cadavres qui trempouillent dans ce qu'on va boire, si vous voulez. C'est un peu immonde, quoi. Voilà, donc c'est ça, plutôt que de boire à la source. Et donc, oui, qu'est-ce qu'on commet contre nous-mêmes quand nous sommes coupés de Dieu? C'est très, très beau, finalement, c'est, je trouve. Et en plus, c'est si vrai, en fait. C'est une image vraiment du Dieu de l'Évangile, à mon avis. L'appel de Jésus-Christ en disant, mais voilà, il y a là, il y a la vie, finalement.
C'est si vrai que moi je vais jusqu'à au sacrement de la réconciliation.
Non, mais tout à fait.
Le plus beau des sacrements, que l'on le nomme d'une façon ou d'une autre et que l'on le pratique d'une façon ou d'une autre, c'est le psaume 50 face au verset 22. Tu auras beau te laver avec tant et tant de soude et de savon, sale est ta faute devant moi. Et purifie-moi, rends-moi un cœur pur, ô mon Dieu. On est sur deux territoires différents. Je me suis amusé de savoir d'où sortait cette soude et ce savon. En effet, il y avait de très riches productions. Mais est-ce bien ça le problème? Est-ce que le savon, le chat, pardonnera les péchés? On est sur deux choses différentes. On a tout confondu. On peut avoir une lessive éclatante. On peut avoir des chemises qui ne décolorent jamais. Cela ne changera rien à la purification de notre cœur. Et voilà. Et je crois que là, il y a toute cette différence entre l'idolâtrie, tout ce qui est de main d'homme, et c'est très bien. Et tant mieux que nous ayons de belles chemises aux couleurs éclatantes. Mais ce n'est pas ça qui nous sauvera. Et en tout cas, ce n'est pas la même chose. Donc il ne s'agit pas de remplacer Dieu par vedette et la mère dont j'ai oublié le nom, la mère Denis. Voilà, je crois qu'il y a dans ces textes toute la sagesse de l'existence, toute la place que nous devons accorder à Dieu et aux hommes et à toutes nos créations. Et à ce qui nous est donné, et à ce qu'on peut donner. Il me semble que, voilà, encore un verset comme le aussi parlant que la citerne. Tu auras beau te laver avec tant et tant de soude et de savon, tu n'auras pas la grippe H1N1, mais tu ne seras pas sauvé.
Oui, parce que la question, là, je crois que c'est dit très clairement là-dedans, effectivement. Ce n'est pas une question de tâche extérieure. C'est pas que tout d'un coup on soit taché et puis que c'est pas ça la question. C'est pas comme si on avait une tache dans notre carnet de notes ou je sais pas. C'est pas ça la question. La question, c'est que la fin du verset 20, voilà, hein, depuis 1, tu as dit je ne servirai plus car sur toute colline élevée et sous tous les arbres verts tu t'es couché pour te prostituer. Moi je t'avais planté la meilleure des vignes, les vraies semences. Comment t'es-tu changé en bâtard dégénéré de vigne étrangère? C'est vrai que ça a du souffle, hein, je sais pas. Ouais. C'est espèce de bâtard dégénéré de vigne étrangère, je veux dire, c'est comme un jour, c'est du capitaine ad hoc. Hein. C'est, encore, il n'ose pas, si vous voulez. Hein. Bien que Jésus, avec les sépulcres blanchis, il va fort aussi. Je veux dire, ça, c'est distingué aussi comme juron. Mais on voit bien là, si vous voulez, que la question, voilà, on avait... quelque chose qui venait nous ensemencer, on était greffé, mais ça, cette image, hein, c'est une image, bien sûr, qui fait penser, nous pour nous, à Jean 15, hein, je suis le cep et vous êtes les sarments, mon père est le vigneron, donc on est de la meilleure semence possible, finalement, il y a en nous, à la racine de notre être, cet amour, cette capacité à la grâce, à l'amour, voilà, et en fait, en se prostituant, en se couchant, c'est-à-dire en se laissant féconder par des idéaux divers, des idéologies véreuses, par un orgueil, un égoïsme, enfin que sais-je, bien sûr. Hein. C'est pour ça que c'est si bien que ce soit mis d'une manière imagée, comme une parabole, parce que c'est à chacun ensuite de méditer ça et de voir qu'est-ce qui finalement, avec quoi on s'est prostitué finalement. C'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est-à-dire quels sont les lieux de fécondité que nous avons inventés pour dire ma vie est féconde, ma vie porte du fruit et des choses qui sont finalement étrangères à Dieu. C'est une vraie question, si vous voulez. Alors bon, ça n'empêche pas d'avoir un travail, de produire, de faire des investissements, etc. Bien sûr, d'avoir des lieux d'investissement, de travail, d'attachement, bien sûr. Mais est-ce qu'on le met dans quelque chose d'aussi fondamental que la relation de couple? C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est avec ça qu'on couche, quoi? C'est ça la question. Je crois que cette image est assez forte. Et donc, oui, effectivement, si on a... Notre être est ainsi dans la prostitution, dans l'idolâtrie, on pourrait dire, c'est une autre image. Hein. Eh bien, on a un vrai problème, c'est pas simplement avec de la soude et du savon, finalement. Hein. C'est quelque chose de plus profond que ça, et c'est à la racine de notre être, à notre Jérusalem, qu'il faut travailler. Eh bien, c'est vrai pour notre société aussi. Des fois, on se dit, mais oui, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le véritable lieu d'espérance de notre humanité aujourd'hui? Qu'est-ce qui vraiment la fait vivre et l'anime? Quelle est, les philosophes diraient, sa préoccupation ultime? Ben, je crois qu'effectivement, c'est une question importante. Et cette question, encore une question qu'il pose. Hein, comment tu t'es changé comme ça? Ça, c'est intéressant. Et ensuite, comment oses-tu dire « je ne suis pas souillé, je n'ai pas suivi Baal » ? Et oui, aujourd'hui, on a l'impression, effectivement, d'une humanité qui, même pas peur, même pas honte, quoi, en fait. C'est ça, des fois, quand même. C'est étonnant, ça. Et je crois qu'au moins, il faut avoir cette lucidité. Mais quand j'étais aumônier des prisons, je remarquais les violeurs d'enfants, c'est jamais eux, quoi. C'est-à-dire, c'était jamais eux. Mais ils le disent. Le pire, c'est qu'ils mentent pas en disant ça. Le pire, c'est qu'ils mentent pas. C'est... Comment dire, je sais, ça m'a surpris. Ils ne mentent pas quand ils disent ça. C'est pas eux. Il y a une sorte de, ils se rendent pas compte. Voilà. Et c'est une, je sais pas, c'est surréaliste, mais c'est pas eux. À la limite, s'ils savaient que c'était vraiment eux, il pourrait y avoir un vrai travail dessus. Mais souvent, c'est comme ça. Il faudrait arriver à ce qu'il y ait cette prise de conscience en disant oui, c'est bien moi qui ai fait ça. Et puis ensuite, on s'inscrit dans un chemin de conversion, de repentance.
Oui, et en même temps, en t'entendant, je dirais que pour l'ensemble de ces textes, qui sont quand même à tonalité, on va dire, difficile, qu'on peut lire à la fin, on se suicide, là, il n'y a plus rien à faire, on a fait tout faux. Je crois qu'il y a une pédagogie, et qu'il y a, en effet, depuis le début, d'abord... Le prophète ne s'adresse pas à des personnes. Il s'adresse à une collectivité, à une société, à un peuple. Alors, c'est pas pour rejeter la faute, j'allais dire, sur personne. C'est pas la faute à personne. Mais ce que je crois, c'est qu'individuellement, tous nos amis psychanalystes, sociologues et autres scientifiques de l'homme nous ont expliqué que j'allais faire un lapsus et dire « nous ne sommes que le produit de ». Non, nous ne sommes pas que le produit d'eux, justement. Mais nous sommes aussi le produit de notre culture. C'est pas de ma faute si je suis au 21e siècle et que le 21e siècle est marqué par un certain nombre de caractéristiques que n'avait pas le 17e et peut-être pas le 1er siècle. En revanche, à l'intérieur du pays que j'habite, de la ville dans laquelle je vis, et du quartier que je fréquente, de la paroisse où je vais, et du métier que je peux, tous les jours, avoir un changement de comportement. C'est-à-dire, je ne peux pas décider que mon entreprise va cesser de faire du profit, ou d'exploiter je ne sais quelle chose sur laquelle elle gagne bien sa vie. En revanche, je ne suis pas obligé de procéder ainsi avec la femme de ménage qui passe tous les soirs dans mon bureau, pas plus avec mon collaborateur et pas plus avec mon chef d'ailleurs, c'est-à-dire que chacun en tire profit et qu'au fond, j'allais dire, tous coupables et personne coupable. Et je crois qu'il en est de l'écriture de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assumer la faute collective, mais en revanche, on peut réfléchir. Et alors, ça, c'est individuellement, mais ensuite on peut agir collectivement. Je crois que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que tout seul, on ne changera pas le monde. On changera notre monde, qui est le nôtre. Et ensemble, on changera un monde. Et voilà. Et je crois que les prophètes, et là on le voit parce que d'abord, et comme on le dit toujours, nous n'étudions qu'un passage. Je vous rappelle que l'an dernier, nous avions lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt le chapitre 1, qui était d'une beauté et d'un extraordinaire. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de la branche de l'amandier, le chaudron bouillonnant et toutes ces images absolument incroyables qui montraient que Jérémie maniait les images de manière extrêmement poétique et parlante. C'est un ensemble. Mais en tout cas, lorsque nous nous trouvons face à un texte de cet ordre-là, n'ayons pas simplement le réflexe de refermer en disant « Bon, j'en vois déjà assez pas... » Essayons de nous dire « Qu'est-ce que ça me dit ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Et en quoi ça me concerne ?» Eh bien, il y a toujours quelque chose de positif. Et même si là, j'allais dire, on énumère plutôt tout ce qui ne va pas, on voit ce qu'il y avait de bon derrière. On voit qu'au fond, si ça ne va pas, c'est parce que justement, on a mis du toc là où il y avait des pierres précieuses. Là où il y avait la bague de la fiancée. On ne peut pas oublier ça. Et je crois qu'il faut s'en souvenir aussi quand on lit ce type de texte.
Oui, c'est vrai. Mais en regardant justement en écoutant ce que tu disais, je regardais. Et il y a des passages au singulier, des passages au pluriel, en fait,
oui,
là-dedans.
Oui.
Donc... il y a des passages où on dit sans arrêt, comment t'es-tu changé en bâtard, ou bien comment oses-tu dire je ne suis pas souillé, j'ai pas machin. Mais ensuite, bon, au verset 29, vous vous êtes soulevé contre moi, vous génération d'aujourd'hui, considérez la parole de Yahvé. Et donc on passe sans arrêt du singulier au pluriel. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, effectivement. Ça l'était peut-être encore plus. Comment dire ? C'est vrai que les prophètes commencent à s'adresser à la personne individuelle, alors que peut-être dans certains textes de l'Ancien Testament, on a l'impression que l'alliance, elle est surtout entre Dieu et un peuple, en fait, Dieu et une collectivité, avec des champions qui sont finalement les vecteurs, les passages de Dieu. Par exemple, Abraham, bon, il est un être individuel, Moïse, David, le prophète... Bon, ça passe par un homme individuel auquel Dieu s'adresse au singulier, mais ensuite, ils sont là comme dans le roi s'incarne tout le peuple. Et si le roi faute, ou même si une personne faute, c'est l'ensemble du peuple qui est malade et qui va mal. Dans la Nouvelle Alliance, mais déjà dans les prophètes, on le voit arriver quand même. Il y a vraiment l'idée d'une alliance entre Dieu et la personne humaine individuelle. Et l'appel devient tout à fait individuel, l'appel à la conversion. Je crois, moi, dans le texte dont tu parlais, là, vous êtes la lumière du monde, on n'est pas seulement collectivement la lumière du monde. Je crois que individuellement, chacun d'entre nous est une lumière pour le monde. C'est un vous, chacun d'entre vous est la lumière du monde. Parce que si cette lumière que vous êtes appelée, que vous avez vocation à faire briller, vous ne la faites pas briller, personne d'autre pourra la faire briller à votre place et elle manquera à l'univers entier finalement. Mais néanmoins, nous sommes le corps du Christ et il y a, c'est vrai que c'est collectivement et c'est dans ce jeu collectif finalement qu'on pourra gagner le match, si je puis dire. C'est-à-dire que voilà, il y a des mains et des yeux et on peut pas, la main ne peut pas dire à l'œil que j'ai pas besoin de toi. Et donc forcément, on travaille ensemble. Donc, il y a un appel individuel à chaque membre qui est reconnu comme unique, comme merveilleux, comme indispensable. Et en même temps, il y a ce jeu collectif qui fait que pour attraper un stylo, il y a une collaboration absolument prodigieuse entre l'œil et la main pour arriver à l'attraper. Donc, je crois que voilà, il y a toujours ce singulier, ce collectif qui est tissé. Et je crois que même dans l'appel à la conversion, cet appel à la prise de conscience, mais aussi dans la louange, comme tu disais, de voir tout ce qui est réellement beau en nous, c'est à la fois singulier et collectif. Ouais, je crois, effectivement. C'est intéressant, ça, quand même. Même si en définitive, le oui à Dieu, il ne peut être qu'individuel dans le fond, dans le fin fond, non ? Mais l'appel à la conversion, mais l'appel à la raison, c'est une intelligence collective aussi. C'est la raison, la prise de conscience, le oui.
Vous savez qui est l'héroïne la plus connue ce soir en Angleterre ? Non, la vieille dame au sac à main.
Ah oui.
Vous avez vu cette vieille dame au sac à main, ce qu'elle a fait ? 5 personnes, des robustes gaillards, armés de marteaux, ont entrepris de dévaliser une bijouterie. Et ils ont commencé, à coups de marteau, à casser la bijouterie devant le bijoutier effrayé et devant un public qui passait en scooter, en voiture, etc., en pleine rue, hein. Et cette dame, on la voit arriver, et elle a un sac à main, elle a 70 ans passés, et elle a un joli sac à main, et elle donne des coups de sac à main à un des voyous qui prend peur, du coup tout le monde prend peur, tous les voyous s'en vont, du coup ils s'effondrent parce qu'il y a un scooter qui tombe, et du coup la police arrive, et du coup tous les gens qui ne se mêlaient de rien se jettent tous sur les voyous et les arrêtent. Voilà. C'était un petit exemple.
Ah, y a des gens qui disent que c'est une vidéo bidonnée parce que c'est bien rare que...
Ah, tu crois que c'est faux ?
Ah, on ne sait pas.
Mais peu importe.
La question, le buzz se pose des questions.
C'est une parabole.
Mais c'est une belle parabole, ça me donne envie de le mettre sur le blog de l'oratoire. C'est vrai que c'est rigolo ce truc. Voilà, voilà. Donc, oui ? Mais c'est vrai que si vous voulez, là, je trouve que là, il faut quand même lire les versets 23 à 24... Pas tellement pour en faire une exégèse, parce qu'en fait, ils sont assez clairs, mais parce que je trouve que c'est quand même... C'est des très beaux versets, hein. Je trouve que c'est amusant, c'est truculent un peu. Hein. Regarde ton chemin dans la vallée, regarde ce que tu as fait, chamelle excitée qui suit des chemins tortueux, ânesse sauvage habituée au désert, reniflant le vent dans sa convoitise, son rut, qui peut le retenir ? Et ceux qui la cherchent n'auront pas à se fatiguer pour la voir. À chaque chaleur, ils la trouveront. C'est quand même... Je trouve que c'est vrai que ça, c'est parlant, moi, je trouve. Voilà. Je trouve que c'est parlant pour une certaine façon de vivre simplement en reniflant le vent et en écoutant, en écoutant simplement ses hormones, simplement son instinct, son désir de l'instant, voilà, en disant, je suis sincère avec moi-même, et donc je vais faire comme je le sens, et en faisant comme je le sens, je suis fidèle à moi-même, voilà, je suis moi, j'existe. Peut-être pas, finalement peut-être pas, quand même, parce que c'est vrai que nous sommes des animaux, la Bible nous le dit, et c'est une réalité, nous ne sommes pas simplement une âme qui est versée dans un corps, nous sommes corps et âme, nous sommes à la fois un animal et un ange, voilà. Et donc, la question, c'est savoir qu'est-ce qu'on écoute dans notre corps et qu'est-ce qu'on place dans notre être et qu'est-ce qu'on place au-dessus, finalement, du panier. Mais c'est vrai que nous sommes fidèles à nous-mêmes quand nous écoutons simplement nos désirs de l'instant et en reniflant le vent qui passe. Nous sommes aussi ça. Mais nous sommes aussi celui qui a au cœur de lui-même, hein, comme le dit le début de ce chapitre, voilà, au cœur de nous-mêmes, de notre être, de notre jeunesse, nous avons quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, de la tendresse. Et ça aussi, c'est nous-mêmes. Et c'est une fidélité aussi à nous-mêmes que de domestiquer un peu la naisse sauvage, d'apprendre un peu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, à la chamelle excitée en rut. C'est aussi être fidèle à soi-même. Je crois qu'effectivement, là, il y a une alternative qui est posée, et qui est posée d'une manière, rigolote, c'est vrai, hein, mais qui, en même temps, ça nous correspond assez bien. Je trouve que c'est assez touchant de le présenter d'une manière aussi amusante et rigolote, parce que, on entre à ce moment-là dans un discours, vous voyez, tellement exagéré et outré que... je trouve que la parole de Jérémie est à ce moment-là, dédramatise un peu la chose. Il dit, mon langage, c'est de cet ordre-là. Voilà. On est dans l'hyperbole, on est dans la caricature, on est dans le remontage de bretelles pour faire réfléchir. Et à ce moment-là, c'est l'écriture qui devient peut-être un peu le miroir de ce que nous sommes, miroir de notre société. Mais voilà, encore une fois, comme tu le disais très bien, ce n'est pas pour nous faire un procès, pour donner un verdict et puis ensuite directement en prison. Ce n'est pas ça. C'est un procès pour se poser des questions, pour creuser, pour sentir et puis pour reprendre en main notre vie avec cette aide extraordinaire qu'est Dieu. Mais ce n'est pas contre nous, c'est du langage. Hein, voilà.
Alors pour finir, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes, je dirais qu'il faut regarder les versets 36 et 37, les versets qui terminent ce chapitre. Et bien sûr, cela nous incitera à aller lire les autres chapitres qui parlent de tellement d'autres choses, pas toujours très drôles d'ailleurs. Il y a cette différence dont on parlait tout à l'heure d'alliance. Tu rougiras de l'Égypte comme tu as eu honte d'Assour. Ce sont les alliances, mais ce sont des alliances d'hommes, c'est les pactes avec la Syrie et avec l'Égypte. Oui, on voit bien ce qu'Israël en a gagné, en faisant des pactes avec le sud et avec le nord, elle est devenue un carrefour d'invasion. Et au fond, au lieu de garder cette alliance avec un grand A, avec son Dieu, elle est allée conclure des petites alliances avec l'Égypte et la Syrie. Et le Seigneur vient lui dire que même d'ici, tu sortiras les mains sur la tête, haut les mains, car le Seigneur rejette ceux qui ont ta confiance. Avec eux, tu n'arriveras à rien. Ça n'a rien à voir. Il est tout de même étrange de voir un pays qui a été libéré, un peuple qui a été libéré d'un asservissement, d'un esclavage, faire alliance avec son esclavagiste plutôt qu'avec son sauveur. Et là aussi, je crois que l'image est tout à fait parlante pour nous-mêmes. Ce qui nous a réduits en esclavage et ce qui nous a fait souffrir, nous pactisons. Et ce qui nous a sauvés et libérés, nous oublions. Alors, à chacun de remettre dans son contexte ce genre de choses. Mais au fond, là aussi, la menace n'est pas une punition, c'est simplement une prophétie. C'est-à-dire qu'en t'alliant avec ce qui te fait du mal, tu récolteras du mal. Et si tu reviens avec le bien, tu seras bien. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut retenir nos prophètes. Notre Jérémie qui a tant pleuré et qui a eu tant d'avanies, je crois même, d'ailleurs, je lisais tout à l'heure qu'il s'est retrouvé dans une citerne, lui aussi, comme son ami Joseph, qui n'est pas de la même époque, mais Joseph que ses frères avaient mis dans une citerne vide. Ça devait être une citerne fendue, celle-là encore. Et puis qui a fini, d'ailleurs, en Égypte, où il s'est fait estramasser, comme on dit dans mon pays. Il s'est fait, plus que ça. Je crois qu'il y a laissé sa peau. Il y a beaucoup de traditions. Vous savez que cet homme, comme les autres, nous en savons pas grand-chose. Pour dire que nous allons conclure maintenant sur ce brave et pauvre Jérémie, en le remerciant de tous ses avertissements et de tout ce dont nous allons garder de lui. La prochaine fois, nous allons monter au ciel. Nous allons directement dans l'Apocalypse et nous allons regarder la ville sainte qui descend du ciel pour voir un peu une Jérusalem sans doute plus attrayante, en tout cas plus bienfaisante ou plus spirituelle ou plus forte. Ce sera l'occasion de nous retrouver cette fois-ci à Saint-Eustache. J'allais dire de l'autre côté de la rue. C'est dans un mois, le mercredi 2 mars. Je vous remercie une fois de plus de votre fidélité. Je vous invite à revenir nombreux, à inviter vos amis. Voilà, et d'ici là, lisez la Bible.
Et puis si vous le désirez, il y a une cantate samedi dans une dizaine de jours à l'oratoire à 18h. Il y a des petits cartons qui sont là. Ça sera Jérôme Prigent qui viendra nous parler un petit peu de... Voilà, nous faire une petite homélie, une petite méditation spirituelle au milieu de ce concert, pour nous ouvrir à un texte donc, Voilà, le texte de la cantate de Jean-Sébastien Bach du jour. Merci, bon retour.
Bonne fin de soirée.